www.radio-g.fr.
Et à tous, et bienvenue, c'est Quasar on the Air qui commence. Quasar on the Air, un jeudi sur deux, c'est la rentrée. Bonjour à tous et bonjour à toutes, soyez les toutes et toutes les bienvenues dans cette émission qui redémarre après une si longue absence. C'est le retour, on est heureux de vous saluer et on va en profiter pour saluer celles qui nous ont rejoints ce soir. Bonjour Michel.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Et bonjour Christelle.
Bonjour tout le monde.
Et nous aurons également des invités au téléphone puisque évidemment avec les mesures de gestes barrières et de protection, nous ne pouvons pas être si nombreux dans le studio et certaines personnes nous rejoindront au fil de l'émission jusqu'à 21h. On va en profiter quand même les filles, je pense que c'est important de saluer celles et ceux qui nous ont précédés à ces micros, que ce soit ici ou Avenue Pasteur ou même au début de Radio Gribouille, puisqu'il y avait déjà une émission il y a de très nombreuses années de Quasar ou de l'équipe qui nous précédait au début de l'association et de sur Angers, de ce mouvement homosexuel, lesbien qui se manifestait et qui s'affirmait. Alors on les remercie parce que si on est là aujourd'hui, bah c'est finalement grâce à eux et nous sommes dans la continuité et que s'ils nous écoutent, eh bien on les embrasse très fort. Ça veut dire aussi qu'il y a des petites nouvelles et des petits nouveaux qui nous rejoindront. Michel notamment en est une.
Pas complètement nouvelle parce que j'ai fait l'émission il y a quelques années.
Voilà, mais c'est pour ça que je
pendant 4 ans.
Et puis Christelle qui est déjà venue à ce micro-là de nombreuses fois.
2-3 fois, oui.
Voilà. Hein, donc, véritablement, nous sommes là, rejoints tout à l'heure par d'autres voix, et on va aussi en profiter pour leur mettre le pied à l'étrier, et puis d'autres nous rejoindront. Alors, j'en profite, puisque nous y sommes, ben, je vais vous solliciter, vous, Christelle et Michel, pour me dire un peu ce que c'est que Quasar, parce que moi, je ne sais pas.
Ah, c'est intéressant, surtout oui. Quand on est quelqu'un d'important dans l'association. Alors, moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans, non 30 ans.
Alors, pas tout à fait, on
pas
a
tout
27
à fait 30
ans.
Hein, 27 ans.
Ça. Tu nous vieillis, mais ça va bientôt venir.
Je confonds entre Radio G et Quasar.
Mais le poil a blanchi sur le harnais, ça c'est sûr.
C'est le centre LGBTQI+, donc d'Angers, et c'est une association militante, mais festive aussi dans la mesure du possible, le plus souvent possible. Et c'est une association qui a suivi les mouvements sociaux et sociétaux français, puisque dans nos débuts, nous vivions tous un peu cachés, que par la suite, nous avons eu des revendications qui ont été en fonction des événements qui se passaient aussi. Et petit à petit, nous avons évolué vers le mariage pour tous. Et maintenant, nous sommes dans l'après cette revendication, donc dans une situation, je dirais, complètement différente au niveau de notre engagement militant et de la mobilisation des uns et des autres.
C'est effectivement ça. Et puis, il y a différents pôles. Christelle, allez, je t'interroge. Interro surprise.
Donc, les différents pôles, c'est le juridique, pour accompagner toute personne ayant subi des agressions, pour pouvoir être bien accompagnée dans leur démarche. Le pôle asile, qui permet d'accompagner tous les demandeurs d'asile en raison de leur identité de genre et de leur orientation sexuelle.
Alors on l'appelle aussi le droit des étrangers, droit mais des c'est étrangers, la même chose, hein, voilà. Voilà, c'est ça.
Il y a le pôle éducation, formation qui intervient auprès, dans les lycées, dans les collèges, auprès des jeunes en service civique, pour pouvoir leur expliquer ce que c'est l'homophobie et comment lutter contre. La Team Trans qui redémarre cette année.
Voilà, qu'on va découvrir tout à l'heure avec Archie qui va nous rejoindre.
Il me manque.
Et bien on a l'accueil. Voilà.
Et on a toute permanence tous les samedis de 17 à 19 au local pour toute personne ayant des questions ou voulant rencontrer ou discuter.
Et ben voilà, c'était ce qu'il fallait dire. C'est ça Quasar et puis plein de choses, plein de rendez-vous. On les découvrira au fur et à mesure de l'année. Alors on va en profiter dans ce début de saison quand même de faire un point très bref en début d'émission sur l'agenda de ce que j'ai appelé l'agenda Q, parce que c'est le Q de Quasar, évidemment, et n'allez pas penser autre chose, bande de petits coquins. Alors dans l'agenda, ben, y a plusieurs choses à noter dans l'activité de l'association. Le samedi 12, il y aura la Transat, qui est la deuxième édition de 17h à 19h du groupe de parole trans à genre non-binaire qui est proposé par la fameuse Team Trans. Et attention, c'est sur inscription sur team-trans@quasar.fr. Et la permanence suivra derrière de 17h à 19h. Et c'est un petit nouveau, un certain Jean-Luc qui nous rejoint pour la permanence et qui pourra vous accueillir parfaitement. Il connaît bien les rouages, ne vous inquiétez pas. Et puis dimanche 13 septembre, c'est le pique-nique de rentrée de Quasar à 12h au parc François Mitterrand à Angers, en centre-ville. Vendredi 18, c'est la conviviale. Alors elle va avoir lieu, mais justement le lieu va vous être communiqué un tout petit peu plus tard, parce qu'on est en train de caler, vous devinez bien pourquoi, avec les conditions sanitaires actuelles. Samedi 19, c'est le grand rangement de rentrée de Quasar. Alors si vous êtes disponible, vous ne savez rien faire entre 14h et 17h, vous venez nous rejoindre, on aura besoin de bras et puis d'intelligence aussi pour ranger tout ça tranquillement, mais ça se fera dans une bonne ambiance. La permanence, elle, de 17h à 19h, et puis une nouvelle permanence, le samedi 26 de 17h à 19h. J'en profite pour parler Q aussi comme culture. Le samedi 12, il y aura le vernissage de l'exposition Nu et Paradoxe à l'Entre-deux. Nous en reparlerons dans quelques instants avec François. Et puis le 19, toujours à l'Entre-deux, eh bien le bar et le patron. Alors, c'est pas le patron qui fêtera ses 9 ans, mais c'est le bar, je confirme. Hein, parce que François a un peu plus de bouteilles quand même. Et puis on vous parlera aussi, en termes de culture, d'un spectacle qui s'appelle Nu Debout, et qui est une proposition du quai TNT, de CND, pardon, et qui est prévue pour les 24, 25 et 26 septembre, qu'on se le dise. Quasar on the air laisse la place aussi aux chroniques. Et tout de suite, nous retrouvons Michel qui, elle, va nous parler de nos voisines. Parce qu'il paraît que nous avons des voisines, dites donc.
Eh bien, je pense que beaucoup de gens en ont des voisines. Et là, celles dont je vais vous parler sont un petit peu particulières. Tout d'abord, je suppose que vous tous vous connaissez, enfin beaucoup d'entre vous en tout cas connaissent Spotify, la plateforme de streaming suédoise qui est très utilisée en France, que moi j'utilise vraiment beaucoup, et sur laquelle vous pouvez aller écouter vos musiques ou vos émissions de radio préférées. Par exemple, Quasar on the air, très prochainement, sera sur Spotify. J'y ai découvert très récemment un document sonore qui s'appelle « Mes voisines ». Alors, évidemment, ça m'a un petit peu interpellée. Je suis allée voir, il s'agit d'une série documentaire radiophonique en six épisodes d'une heure.
Cette ça série peut être profond aussi. Hein.
Cette série part à la découverte de sept lesbiennes qui sont enterrées au cimetière du Père Lachaise à Paris. Et en écho, elle donne la parole à trois femmes lesbiennes d'aujourd'hui. L'ambition générale de ce documentaire, qui est annoncé par rapport à cette création, il est le suivant. De nourrir notre matrimoine, de rompre le pouvoir d'invisibilité des lesbiennes dans la mémoire collective et dans la vie d'aujourd'hui, de faire vivre ce monde de silence et d'interrogation, qui est un cimetière, par toutes ces histoires de vie remontées à la surface, de créer des liens entre les lesbiennes d'hier et celles d'aujourd'hui, et de voir ce qui bouge, ce qui perdure, ce qui résonne, ce qui fait notre communauté. Fin de citation. Alors donc, les sept femmes qui sont enterrées au Père Lachaise, dont il est question dans cette série, sont Monique Wittig, Mathilde de Morny, Françoise Raucourt, Rosa Bonheur, Gertrude Stein et sa compagne Alice Toklas, qui sont dans la même tombe, et Didier Sextoy. Alors là, je dois dire que quand j'ai vu le dernier nom,
c'est une surprise.
Je me suis dit, est-ce une erreur, est-ce une surprise? C'était une surprise en tout cas pour moi. Donc je suis allée voir un petit peu qui était cette personne, dont je n'avais jamais entendu parler. Et en fait, c'est le pseudo d'une DJ française décédée en 2002. Et en fait, de son vivant, et même après sa mort, cette femme a inspiré pas mal d'artistes, à la fois dans le domaine de la musique, de la littérature, du cinéma et dans l'art corporel. Et j'ai découvert qu'il y a même une page Facebook à sa mémoire. Donc elle s'appelle DJ Sextoy. Si vous voulez en savoir plus, allez sur Facebook.
Mais alors, je connaissais évidemment, mais je ne savais pas qu'elle était décédée.
Elle est décédée en 2002.
Voilà, c'est ça.
Très jeune. Alors, ce que je pense de cette création sonore, quand même, eh bien, c'est une façon à la fois sérieuse et parfois déjantée d'appréhender la vie de ces sept femmes. C'est un documentaire très contrasté et très léger en même temps. Alors en plus, c'est sur Spotify gratuitement pour les personnes qui n'ont pas d'abonnement. Donc sans souci, vous pouvez vous connecter. Et une info supplémentaire en passant, si le sujet vous intéresse, c'est que sur Spotify, vous pouvez aussi retrouver d'autres émissions entièrement dédiées aux femmes sur plein de sujets différents. Voilà, n'hésitez pas à y faire un tour.
Merci Michel pour ce premier temps de chronique et puis nous te retrouverons tout à l'heure pour d'autres thèmes. Alors puisque justement nous allons profiter de cette rentrée toutes et tous ensemble, nous allons faire le point un peu sur l'activité de l'association et quelles ont pu être les conséquences du confinement sur l'association et sur les personnes, les publics, les gays, les lesbiennes, les bi, les trans et ceux qui viennent nous rendre visite. Alors je vais tout de suite en profiter pour saluer Bernard qui nous rejoint au téléphone. Bonjour Bernard.
Bonjour.
On est heureux de t'entendre puisque effectivement on ne pouvait pas tous être là dans le studio et donc on a profité de pouvoir t'entendre pour faire le point avec toi sur, évidemment on sait tous que le confinement, ben, on l'a tous vécu, mais toi tu t'occupes plus particulièrement, tu es le référent du pôle droit des étrangers et que les demandeurs d'asile que tu reçois ont dû eux aussi se confiner dans des situations effectivement pas faciles. Mais après au déconfinement, quels ont été finalement les actes que le Quasar, le groupe, le pôle droit des étrangers a pu poser et quelle action vous avez pu avoir en reprenant normalement ou pas l'activité que vous aviez avant?
Eh bien, après le confinement, on a repris les rendez-vous avec les demandeurs d'asile pour donc travailler sur leur dossier avec eux, en sachant que l'OFPRA et la CNDA, c'est-à-dire l'administration française qui s'occupe du droit d'asile et la Cour de justice du droit d'asile, ont repris dès la fin du confinement. Donc il fallait que nous, on reprenne bien évidemment. On a repris très très vite le rythme. Hein, et puis ensuite, vers le mois de juin, on a progressivement commencé aussi à reprendre les temps de convivialité qui sont très importants pour les demandeurs d'asile. Beaucoup sont isolés et en fin de compte, pour eux, c'est important de se retrouver. Donc, on a progressivement organisé des temps de convivialité, bien sûr, en respectant mesures sanitaires pour qu'il n'y ait pas de problème. On a quelques demandeurs d'asile qui, malheureusement, ont été contaminés par le virus, notamment dans les lieux où ils vivent.
D'accord, mais pas de cas graves, j'espère.
Pas de cas graves. Non, absolument pas.
D'accord. Et est-ce que vous avez noté le fait qu'ils soient atteints psychologiquement, qu'ils vivent très difficilement déjà leur situation de demandeur d'asile, avec des fois des manques d'argent, comme vous l'avez dénoncé avec la fameuse carte ADA qui n'était pas alimentée, mais est-ce que psychologiquement le fait d'être coupé des autres, de ne pas pouvoir venir nous voir, a eu une incidence?
Oui, bah, c'est-à-dire que plusieurs, par exemple, juste après le déconfinement, là, alors, quand on a recommencé progressivement à les recevoir, nous ont dit, bah oui, c'est très difficile pour nous. pendant le confinement, on téléphonait, plusieurs ont d'eux-mêmes téléphoné en disant que bah, pour eux c'était très dur, l'isolement était très dur, il y avait aussi quand même la peur également d'être contaminé. N'oublions pas quand même que beaucoup de ces demandeurs d'asile viennent de pays africains où il y a eu la très grave épidémie d'Ebola il y a quelques années. Et ce sont des souvenirs terribles pour eux quand même.
Pour eux, effectivement.
Et donc, ce qui était dur pour eux, c'était quand même essentiellement de se trouver quand même relativement coupé de l'association. Pendant une période, on ne pouvait pas rentrer dans le bâtiment, hein, c'était, on ne pouvait pas. Et puis également, le manque de temps de convivialité. Alors là, on a repris ces temps-là progressivement. On n'est pas encore au top niveau à ce sujet, mais bon, ceci étant dit, pour eux, ça a fait du bien de se retrouver dans des temps pour jouer aux cartes ou pour faire des tournois de foot.
Et on te remercie beaucoup, Bernard. Pour terminer, en 30 secondes, aujourd'hui, on est à combien de dossiers, combien de personnes que le groupe suit très régulièrement? Alors, file active et dossiers en totalité.
Ben, c'est-à-dire qu'actuellement, on suit alors à différents niveaux environ une centaine de demandeuses et demandeurs d'asile. La majorité ne sont pas dans le Maine-et-Loire. Mmh. Dernièrement, depuis la fin du mois d'août, on a eu 4 résultats de la Cour nationale du droit d'asile, et donc le résultat c'est 4 statuts de réfugiés. Et donc ben voilà, hein, on a repris le rythme avec depuis quelque temps l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux demandeurs d'asile également.
On te remercie beaucoup, Bernard, très bonne soirée, et puis on embrasse évidemment tous ceux et toutes celles qui font partie du pôle droit des étrangers de Quasar. Très bonne soirée à toi, ciao. Bon.
Radio G 101.5 FM.
Freak out, got you fussing, got you worried, scared to let your guard down, boys. Boys, tell the neighbors I'm not sorry if I'm breaking walls down, building your girl's second story, ripping all your floors out. Stop!
Girls Like Girls par Hayley Kyoko.
Quasar en hier sur Radio G 101.5. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne soirée avec nous. On va se caler encore techniquement, vous l'avez remarqué, mais ça va venir, on vous l'assure. Alors, puisque nous sommes justement dans l'effet et l'étude de ce que la pandémie a pu avoir sur notre association, ce que je peux vous dire, c'est que sur l'accueil, effectivement, nous avons eu peu de personnes en présentiel, selon la fameuse expression, et physiquement dans les bureaux, sauf que nous avons eu énormément de rendez-vous, notamment sur la thématique trans, et on va en parler dans quelques instants avec un de nos invités qui va nous rejoindre au téléphone. Vous dire aussi que pour la partie juridique, il faut noter que les agressions que nous suivons, dont une qui date du début mars, juste avant le confinement, et que la victime évidemment est venue nous voir et que nous avons fait tout le nécessaire, eh bien les enquêtes ont été extrêmement difficiles parce que elles ont été bloquées et qu'il a fallu prendre beaucoup plus de temps que ce qui leur aurait été nécessaire habituellement. Nous avons également d'autres cas, dont un à Sablé-sur-Sarthe, et là c'est pareil, l'agresseur a été sollicité beaucoup plus tardivement par les forces de police ou de gendarmerie. Et puis il y a un autre pôle aussi sur lequel on va s'arrêter là ce soir, et on va discuter de ça avec Christelle qui est donc parmi nous dans le studio, et on va parler du pôle éducation-formation. Alors en deux mots, tu peux nous dire, de nous rappeler ce qu'est le pôle éducation-formation?
Alors le pôle éducation-formation, on est un groupe de 10 appartenant tous à Quasar, et nous intervenons avec l'accord à chaque fois des directions des lycées, des collèges, des services civiques, auprès des jeunes pour parler homosexualité, homophobie. On intervient dans tout le département, donc on a été jusqu'à Chemillé, ce qui était très très intéressant. On va aussi à Cholet et sur Angers.
Alors vous avez un bus pour aller faire les interventions si vous êtes 10?
Ben non, parce qu'on est tous répartis dans tout le département, on est tous éclatés, donc c'est un petit peu... Voilà.
Ah, j'en connais qui sont éclatés, oui, ça c'est sûr.
Donc de temps en temps, ça avantage les uns ou les autres. Donc pour vous donner des exemples, on intervient au collège Renoir, sur toutes les quatrièmes. Le quatrième, c'est un âge où on se pose beaucoup, beaucoup de questions. C'est des interventions souvent dynamiques, mais très, très, très riches en échanges. Les jeunes osent poser des questions qu'ils n'oseraient pas poser aux professeurs. Souvent, les questions qu'ils nous posent, les professeurs les regardent avec des yeux ronds et sont un peu étonnés. Par contre, ça fait maintenant 3 ans que l'on intervient. Et la conclusion, c'est que sur la cour de récré, les insultes homophobes et transphobes et compagnie ont sérieusement diminué, puisque les quatrièmes reprennent les plus jeunes, et comme ça se fait d'année en année, la dynamique continue.
Donc ça, c'est vraiment très sensible, en tout cas, c'est ce que les personnels de l'éducation nationale, oui, les directeurs ou les profs vous disent.
Voilà, on avait le projet...
Je disais, c'est très positif.
Ah ben, évidemment.
On avait le projet aussi, mais ça n'a pas abouti. On espère que ça pourrait aboutir au moins cette année ou l'année prochaine. C'est de former les profs à l'écoute de quand les jeunes se posent des questions, comment les écouter quand ils se rendent compte qu'un jeune se pose des questions sur son identité de genre, sur son orientation sexuelle, c'est comment l'accompagner. Tout ça a démarré de la part d'une pionne, c'est comme ça que j'appelle, qui en avait marre d'entendre des insultes, et c'est vraiment une dynamique qui s'est mise en route qui est vraiment super intéressante. L'autre gros morceau de l'année dernière, c'était Cholet.
Oui.
Au lycée Europe. On nous a dit, voilà, vous avez 2 jours pour passer les 11 classes de seconde, professionnelles et générales. Là, il a fallu solliciter tout le monde, mais c'était très, très, très intéressant. Puisque c'est un Cholet, c'est un lieu où l'accueil est inexistant, où il n'y a pas lieu d'écoute sur ces questions-là, où il n'y a pas lieu où ils peuvent se rencontrer, et où les jeunes sont très, très isolés. On a dû faire face à des questions un peu différentes d'un Renoir. Beaucoup de jeunes imprégnés de religion, qui défendaient leur bout de grande, disant « Ouais, mais nous, la religion dit que... » Donc ça c'était un peu vif, mais bon, c'était en même temps très très riche. On a réussi à faire le parallèle entre racisme et homophobie, ce qui en a interpellé certains qui ne s'attendaient pas à ce que ça soit, mine de rien, tellement proche. Donc ça, c'était très très riche, très intéressant. On a une autre partie aussi de jeunes qui se posent des questions, qui nous ont demandé des entretiens individuels après, qu'on a pu rencontrer hors cadre scolaire parce qu'ils voulaient rester discrets. Mais passer presque 300 jeunes en deux jours,
oui, c'est...
ça a été un boulot énorme, mais... super
Donc, alors, évidemment,
valorisant.
Ce boulot-là est extraordinaire, fait par toute l'équipe. Mais le problème, c'est que, évidemment, le confinement puis le déconfinement n'ont pas permis de reprendre tous ces temps dans les autres établissements. Et que là, la rentrée fait qu'il faut laisser les établissements effectivement faire leur rentrée, digérer pour certains cycles la réforme.
Voilà.
Et que vous vous reverrez, on l'espère, fin octobre ou au courant novembre. Merci beaucoup, Christelle. Et très bonne soirée. Alors, 30
Juste
secondes.
Un truc, si vous avez besoin que l'on intervienne, ça se fait toujours en accord avec la direction de votre lycée ou votre collège, mais n'hésitez pas à les interpeller et nous interpeller pour qu'on puisse intervenir dans votre lycée ou dans votre collège.
Très bon message. Merci beaucoup, Christelle. Et puis maintenant, au téléphone, on va accueillir une nouvelle voix, alors qui n'a pas pu être avec nous là ce soir, mais qui va nous rejoindre dans les semaines qui viennent. C'est Archie. Bonjour, Archie.
Bonjour.
Alors, Archie, pour quel prénom très exactement ? Levons le mystère.
Pour Archibald.
Ah, voilà, c'est ça. Mais je voulais te laisser le dire tranquillement. Alors, raconte-nous un peu qui tu es, dans ce que tu voudras nous dire, mais surtout, quel est ton lien avec Quasar ?
Alors, donc, je m'appelle Archie, j'ai 24 ans, je suis un homme trans. Et mon lien avec Quasar, eh bien, j'ai découvert Quasar quand je suis arrivé sur Angers, il y a à peu près 2 ans. Je suis venu tout simplement à une des permanences le samedi. Et puis, j'ai trouvé l'ambiance sympa et je me suis senti accueilli. Et puis, un an plus tard, j'ai décidé d'un peu plus m'engager auprès de vous. Et finalement, en te connaissant un peu mieux aussi, à travers ça, on a organisé de plus en plus de choses. Et maintenant, je suis content de faire partie des actions à Quasar.
Voilà. Et alors, puisqu'on a reçu beaucoup de personnes là, notamment après le déconfinement, sur une question, une thématique trans, qu'est-ce qu'on a finalement décidé de mettre en place et qu'est-ce qui a germé à Quasar ?
C'est vrai que, comme tu l'as dit, là, le confinement a créé beaucoup de coming out et de situations à gérer rapidement pour les transgenres. Et donc, on a décidé de mettre en place un groupe de parole qui a lieu tous les mois, à des dates différentes dans le mois. Le mois dernier, donc c'était la première, c'était en août, et on avait fait ce premier groupe de parole qui est en fait dédié à du soutien, de l'écoute, du partage de parcours, du partage de vécu, mais aussi pour débattre de thématiques un peu plus compliquées dans le milieu transgenre, les hormones, l'inclusivité, les mineurs et ce genre de choses. Et donc là, le groupe de parole qui a lieu ce mois-ci, c'est ce samedi. Et voilà, ça va suivre son cours avec toujours les mêmes thématiques.
Alors ceux et celles qui sont concernés, qui sont des personnes transgenres ou qui sont des amis, des alliés, qui peuvent être également, alors tu vas me dire si je me trompe, des personnes agenres, non-binaires, elles peuvent venir à ce groupe, mais quelle est la condition finalement ?
Bah oui, elles peuvent venir, il n'y a pas de souci. La condition, c'est la bienveillance, l'écoute et puis le non-jugement. Enfin voilà, c'est toutes les personnes qui veulent aider des gens qui connaissent dans ces situations, dans des questionnements de genre, ou tout simplement des personnes qui sont concernées directement par ces questions de genre. Donc c'est ouvert à tous les bienveillants et les bienveillantes.
Et puis on s'inscrit aussi, tu le rappelles ?
Oui, à cause de la situation actuelle de la pandémie, on est obligé de s'inscrire donc par mail.
Voilà.
Et voilà.
Et tu le connais par cœur, le mail, c'est un test, je te garantis.
non, je ne le connais pas par cœur.
Eh bien, je vais le dire, c'est team, T-E-A-M, tiré du 6, trans, @ Quasar, Quasar.fr pour vous inscrire et c'est Archie qui vous répond. Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi penser de l'avenir de personnes transgenres qu'est-ce qu'on peut faire au sein de Quasar pour réfléchir à améliorer la situation des personnes ? Qu'est-ce qu'on peut faire déjà au sein même de l'association ? Est-ce que tu as quelques pistes ?
Oui, alors on pensait à tout ce qui était écriture inclusive sur les bulletins d'adhésion, ce genre de choses pour intégrer le plus de personnes possible et les mettre tout de suite à l'aise quand on rentre à Quasar, même si c'est déjà le cas.
Et ça va être nécessaire. Et,
aussi au niveau des locaux type les WC, ce genre de choses, quel genre de logo ou d'écriture on peut inscrire, voilà.
Et puis après, bon, on verra par rapport à tout ce qui est l'engagement militant. Et on rappelle évidemment que tout cela, c'est par et pour les personnes transgenres, non-binaires et agenres. On est bien d'accord.
Oui,
hein,
voilà. Exactement.
Bon, écoute, on t'embrasse. On te souhaite une très, très bonne soirée. On se dit sans faute la prochaine fois dans le studio. Hein, on est d'accord?
Exactement, oui.
Ça marche. Allez, ciao, bye, Archibald.
Bonne soirée.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Vous êtes à l'écoute de Quasar on the Air. Pause musicale et puis on la veut spéciale cette pause parce que vous n'êtes pas sans savoir dans l'actualité angevine que Ruthière, l'alvarium, a encore pris l'occasion de se faire remarquer et finalement d'insulter les personnes qui viennent bénéficier des repas et de l'aide alimentaire qui est distribuée dans la salle municipale Ruthière. Alors on leur dédie à ces jeunes gens qui manquent de respect aux personnes cet été français d'Indochine, Indo, qui fête leur 40 ans cette année et on les embrasse. Pas l'alvarium, je veux dire, mais ceux qui font le geste de venir chercher de quoi se sustenter.
Un jour dans ma vie où je n'ai pas envie de rester en place. Encore un lundi sans vie où je ne subis que le temps qui passe. Ma vie c'est l'estomac noué, à rester enfermé et à marcher au pas. Mercredi je rêve d'une autre vie. Si tout pouvait s'arrêter là, histoire d'avoir le choix.
Français.
français d'Indochine qui nous parle de ce froid ou de ce front national. Dédicace spéciale. Vous êtes sur Radio G 101.5, c'est Quasar on the Air. Et Michel, maintenant, va nous parler d'une personnalité que certains d'entre nous connaissent. Et puis, c'est quelqu'un qui vraiment est à découvrir. Alors, on te laisse la parole et le micro pour nous parler de Paul B. Preciado, Michel.
D'accord. Eh bien, cet été, vous avez peut-être, comme moi, écouté l'émission Chacun sa route qui avait lieu sur France Inter toute la semaine. Et le 3 août dernier, l'invité était justement Paul B. Preciado. Alors, Paul Preciado est un philosophe espagnol de 50 ans. Il a fait ses études aux États-Unis, il a beaucoup voyagé dans le monde et maintenant il vit à Paris. Il est proche des mouvements féministes, queer, transgenre et pro-sexe. Et Paul Preciado a déjà écrit un certain nombre d'ouvrages dans lesquels il théorise notamment sur l'abolition des différences entre les sexes, entre les genres et les sexualités. Il écrit également beaucoup de chroniques dans différents médias, dont Mediapart, et depuis 2013, il rédige une chronique régulière sur le genre, la sexualité, l'amour et le biopolitique dans le journal Libération. Alors, né de sexe féminin et d'abord connu sous son prénom de naissance, Béatrice, il s'est tout d'abord considéré comme une femme lesbienne, et puis plus tard, quelques années après, comme une Gwyn trans et comme garçon-fille. Il revendiquait de n'appartenir à aucun des deux genres masculin et féminin. En août 2014, il s'est déclaré trans in between non opéré. Et puis en janvier 2015, il a décidé d'utiliser le nom de Paul B. Preciado et il a choisi le masculin pour s'identifier. Il était invité sur France Inter à l'occasion de la sortie de son dernier livre, dont le titre est « Je suis un monstre qui vous parle » et qui est publié chez Grasset. En fait, ce livre est né de son intervention aux Journées internationales de l'école de la cause freudienne, auquel il a été invité en novembre 2019. Pour information, la cause freudienne est une des plus importantes institutions de psychanalystes lacaniens de France. Et donc ce jour-là, son intervention a déclenché un tel débat entre les experts présents qu'il a décidé de publier son texte dans son intégralité. C'est ainsi que c'est devenu le livre paru cet été, « Je suis un monstre qui vous parle », qui est une vision métaphorique entre la migration géographique et la migration sexuelle. Pour Paul Preciado, la transition de genre est un voyage extraordinaire. Quand il raconte sa métamorphose, le passage de la frontière de femme à homme, il parle notamment du corps comme paysage érotique. Pour lui, la transidentité est une des choses les plus belles et les plus joyeuses qu'il ait faites dans sa vie. Il croit fortement que nous n'y sommes ni hommes ni femmes, juste un corps vivant. Et donc si le sujet vous intéresse, le livre est à acheter facilement.
Oui, ou à commander de toute façon.
Et l'interview de Paul Preciado, qui est toujours écoutable dans les podcasts de France Inter, donc à la date du 3 août dernier. Moi, j'ai trouvé vraiment très intéressante à entendre, quelle que soit notre opinion sur le sujet. Et il a un regard sur lui-même et sur leur genre, sur la sexualité et les corps, un regard qui est complètement étonnant, mais aussi très positif, très vivant. Et moi, j'ai trouvé cette interview pleine d'énergie positive. Et vraiment, ça a été un moment très agréable à entendre.
Merci Michel pour cette chronique et celles et ceux qui veulent découvrir Paul B. Preciado eh bien pourront suivre tes conseils. Un grand merci. Nous allons poursuivre ce Quasar on the Air en faisant le tour des partenaires, des gens qu'on connaît sur Angers, sur la question effectivement de l'après-confinement, des conséquences que ça a. Et sur la thématique de J'aime mon bar, on va se diriger vers la rue Lyonnaise où nous attend François, le patron de l'entreprise. Deux, le bar LGBT d'Angers. On te salue, François.
Bonjour. Alors, je vous entends au loin, vous m'entendez ?
Oh ben parfait. Alors évidemment, tu es en plein service, donc on va te prendre quelques petites minutes et on va demander aux clients d'être raisonnables et gentils et silencieux, au moins le maximum qu'ils puissent faire. Et puis on va te poser la question, toi, ce confinement et ce déconfinement, comment est-ce qu'un établissement LGBT à Angers survit ? Est-ce que les clients reviennent ? Est-ce que le port du masque est finalement si compliqué que ça ?
Alors ça fait plusieurs questions, donc confinement, il y a eu des petits moments longs, mais dans l'ensemble ça me faisait du bien de prendre des vacances. Les aides mises en place m'ont aidé à passer le cap et m'ont permis d'étaler mes dettes là sur la fin de l'année. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Et après l'été, c'est très très bien passé. C'était une belle fréquentation, sans doute parce qu'il y a moins d'angevins à partir. Donc ils ont dû avoir envie de venir au bar. Donc là, à la rentrée, là, pour l'instant, je trouve que c'était très bien. Un peu épuisant, mais très très bien.
Donc on l'entend, effectivement, c'est un moment difficile pour tous les commerces et pour chacun aussi au niveau du travail. Est-ce que toi, ton regard, après tant d'années d'exercice derrière le comptoir, tu t'es aperçu de changements de comportement, de sociabilisation, d'une fréquentation moins importante des bars, puisqu'on rappelle qu'il y avait deux bars avant officiels, maintenant il n'y a plus que toi. Est-ce que tu as noté un changement? Est-ce que les applis sont pour quelque chose? C'est quoi ton point de vue et ton regard?
Oh bah ça, c'est plutôt sur du long terme. Je pense que ça fait au moins 15 ou 20 ans que la fréquentation des lieux, hein, c'est-à-dire sauna, bar, lieu de drague, doit pas être en hausse. Hein. Par contre, si je prends mon cas à moi, l'été a été vraiment une belle fréquentation. Après, je vais voir comment va être la rentrée. Hein.
Alors, tu ne restes pas les bras croisés, puisque dès samedi prochain, le 12 septembre, à partir de 19h, il y a le vernissage d'une exposition de Anto Flytrap et JG Photographie à l'entre-deux, justement, qui s'appelle Nu et Paradoxe. Alors, tu peux nous dire quelques mots sur cette expo?
Ben oui, ce sont deux photographes qui sont spécialisés dans le nu masculin. Donc ils ont leur univers propre et puis de temps en temps ils reprennent aussi des tableaux qui ont été faits au cours de l'histoire de l'art et ils en font la même chose, la même pose en photo. Et donc le vernissage de cette expo-là qui va durer deux mois va avoir lieu samedi là.
Donc on attend plein de monde, enfin tout du moins dans...
Oui, ben, dans la limite des... C'est dans la limite des stocks disponibles.
C'est ça, c'est ça. Bon, écoute, on te remercie beaucoup, on te rend à tes clients, on t'embrasse bien fort, et puis ça nous permet de dire, bah, j'aime mon bar aussi, puisqu'à Angers, la situation était celle que je décrivais, c'est-à-dire que nous avions deux bars LGBT, nous avions deux saunas, et maintenant la réalité c'est qu'il n'y a plus qu'un seul de chaque, c'est-à-dire un seul bar et un seul sauna, donc effectivement, bah, la vie continue, mais différemment. Donc c'est de ça dont on parlait, effectivement. Merci François, ciao. Et très bonne soirée.
À bientôt.
Au revoir. Quasar on the air, nous retournons vers Sophie parce que... Pardon. Quand je te vois, Michel, je pense à Sophie, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai trahi? Rien, mais je l'ai dit. Et maintenant, qu'est-ce que
no
tu...
No comment.
Voilà, tu nous parles de mille et une queer, mais c'est fantastique ça.
N'est-ce pas? Eh bien, il faut savoir que pour les personnes issues de l'émigration en provenance du Maghreb et du Moyen-Orient, et qui en France souvent habitent dans les quartiers les plus populaires, il n'est pas facile de vivre l'homosexualité au quotidien. Et c'est vrai que nous en avons des témoignages régulièrement. Mille et une queer est un jeune collectif féministe parisien qui rassemble des lesbiennes issues de cette immigration. Ce que toutes ces personnes ont en commun, c'est de subir à la fois les LGBTQIA+ phobies, le sexisme, le racisme anti-arabe et l'islamophobie, ce qui fait beaucoup pour une seule personne. Elles souffrent d'une forte pression sociale de la part de leur entourage, mais pas que, et cette pression empêche une partie d'entre elles de vivre sa vie et sa préférence sexuelle au grand jour. À la base de ce collectif, il y a une vingtaine de femmes qui ont entre 18 et 45 ans, de différentes classes sociales. Certaines portent le voile et d'autres se revendiquent complètement athées. Ces femmes ne sont pas toutes arabes. Il y a parmi elles des femmes berbères, des turques et des syriennes. Mais elles ont conscience qu'une partie de la société projette sur elles les stéréotypes sexistes et racistes visant la femme arabe, mettant toutes ces femmes en fait dans le même panier. Ce collectif est né pour créer un espace sûr et confidentiel de dialogue, mais aussi d'entraide. Elle souhaite également déconstruire les stéréotypes racistes et sortir de l'invisibilité les lesbiennes issues de l'immigration. Elle revendique le droit légitime de chaque femme à disposer seule et librement de son corps. Elle refuse d'être sous contrôle permanent, que ce soit pour leur identité, pour leur corps et les tenues vestimentaires imposées, ou pour leur sexualité. En fait, elles ont la sensation que leur corps ne leur appartient pas. Et là, ça, ce n'est pas tolérable. Si vous souhaitez en savoir plus sur elles ou entrer en contact avec elles, vous les retrouverez sur leur page Facebook qui s'appelle bien sûr 1001 Queer.
Radio G. www.radio-g.fr.
Je suis sous le charme, comme si tout à coup je n'étais plus une femme. C'est agréable comme sensation. J'ai l'impression d'être au collège devant un garçon. Et dans mon cœur et dans mon corps, tout le monde a l'air d'accord pour me dire que je suis touchée là où jamais je ne me serais aventurée, comme un sens. Si les garçons ne m'ouvrent pas leur cœur, je sens que je vais aller voir ailleurs. Là où tout est beau et plein de douceur, les femmes. Je sens mon corps se remplir de bonheur et mon sourire noyé par les pleurs. Je danse, mais j'hésite encore. Souffle-t-on comme si c'était une fausse direction. Mon plaisir se moque de tes équations. Je laisse aller mes sens, mes émotions. Cette peau douce, absolument parfaite. Cette odeur fruitée et sucrée m'entête. J'arrive au pays des bisounours, tranquillement allongée sur un nuage de mousse. Elle me dit comme ça: viens, on va faire un tour sur ce toboggan arc-en-ciel, c'est celui de l'amour. On ira manger une glace à la vanille, mais d'abord j'aimerais être sûre que tu n'aimes que les filles. Si les garçons ne m'ouvrent pas leur cœur, je sens que je vais aller voir ailleurs. Là où je sens mon corps se remplir de bonheur et mon sourire noyé par les pleurs. Je danse, mais j'hésite encore des larmes. Si les garçons ne m'ouvrent pas leur cœur, je sens que je vais aller voir ailleurs. Là où tout est beau et plein de douceur.
Hier, c'était les femmes Yel. Une autre femme qui vous raconte des histoires. Et une jolie histoire, mais sur pellicule cette fois-ci.
Tout à fait, je vais vous parler cinéma. Un film est sur le point de sortir, ou en tout cas, il est peut-être sorti, mais pour le moment, je vous en dis pas plus. Il s'appelle IFE, I-F-E accent aigu, ce qui signifie amour en langue yoruba. En fait, c'est aussi le prénom de l'une des deux protagonistes du film. Ce film qui a été tourné au Nigeria, qui a été réalisé par une femme nigériane et produit par une autre femme nigériane avec des actrices nigérianes. Avec son nouveau film, donc la réalisatrice, dont je ne vais prononcer le nom qu'une seule fois tellement c'est difficile, je vais l'écorcher forcément. Donc c'est quelque chose comme Ouyadou Ipketim. Donc cette réalisatrice souhaite aborder de front le sujet de l'homosexualité pour créer de l'espace aux personnages LGBTQI à Nollywood. Alors Nollywood, je viens de découvrir que c'est l'industrie cinématographique nigériane qui a une énorme production Et il est intéressant de noter que le Nigeria est la deuxième puissance cinématographique au monde en nombre de films produits par an. Et ça, je dois dire que peu de gens le savent.
Oui, oui.
Moi, la première. Alors, par contre, dans cette production énorme, eh bien, les personnages LGBTQI+, ils sont rares et ce sont souvent des rôles de malades mentaux ou de personnes sous l'influence de la sorcellerie ou tout simplement en difficulté. Et donc cette image véhiculée finalement encourage la violence contre les personnes LGBTQI ou le jugement sévère des téléspectateurs. La réalisatrice a dit la chose suivante, je la cite, « Je suis queer, donc Ife me tient à cœur. Je voulais représenter les personnages LGBTQI sous un jour différent de la façon dont ils ont été montrés dans les histoires passées pour changer la façon dont les hétérosexuels les voient. » Et cette histoire se concentre en fait sur deux femmes, Ife et Adaora, et sur l'incertitude entourant leur relation. La réalisatrice a déclaré à propos du scénario, je la cite encore, « Elles rencontrent des problèmes lorsqu'elles ne sont pas certaines de l'avenir de leur relation, étant donné que ces deux femmes vivent au Nigeria, qui est un pays homophobe. » Effectivement, l'homosexualité est plus que mal vue au Nigeria. Et là où en France, nous avons une loi légalisant le mariage pour tous, eh bien en 2014, le Nigeria a voté une loi contre le mariage homosexuel qui dit que toute personne reconnue coupable de mariage homosexuel risque jusqu'à 14 ans de prison. En 2019, l'ONG nigériane Equal Watch, qui défend les droits humains, a réalisé une enquête qui a révélé que 75% des personnes vivant au Nigeria soutiennent l'application continue des lois anti-gays. Et pourtant, depuis que la réalisatrice, la productrice ont fait parler de ce film qu'elles étaient en train de tourner et qui s'apprête à sortir, la productrice a déclaré dans une interview, je la cite, « Le film Ife reçoit une vague de soutien de la part du public nigérian. C'est quelque chose de révolutionnaire. Nous avons reçu du soutien de la sortie de l'affiche de la bande-annonce. On a l'impression que les gens ne savaient pas qu'ils voulaient ce type de contenu jusqu'à présent. » Alors, ce film est réalisé en partenariat avec Equality Hub, qui est une autre ONG nigériane spécialisée dans la lutte contre les injustices sociales à l'encontre des minorités sexuelles. Consciente que le film ne pourra pas être diffusé dans son pays, la productrice a délibérément choisi de le diffuser en streaming afin que quiconque souhaite le voir puisse le faire de n'importe où dans le monde. Résultat, nous ne le verrons pas dans les salles juives, mais sur nos ordinateurs. Et depuis juillet dernier, vous pouvez voir sur YouTube la bande-annonce ainsi que des interviews, mais là en anglais, donc si vous ne parlez pas bien anglais, ça va être difficile, il n'y a aucune traduction en sous-titres. Donc des interviews des actrices, de la réalisatrice et productrice. Par contre, avec beaucoup de recherches, je n'ai toujours pas trouvé la date de sortie de ce film qui était annoncée en juillet, mais qui donc devrait pas tarder s'il n'est pas encore sorti.
Donc il faut surveiller toutes...
À vos ordi.
Voilà, on te remercie beaucoup et on retient le titre du film.
Qui est Ife, I-F-E.
Merci Michel. Avant de refermer les pages de ce Quasar on the Air, eh bien, nous allons ouvrir celle d'un agenda et le détailler maintenant, celle des pages de l'agenda Q comme culture. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'un spectacle qui aura lieu à Angers et au Quai. Eh bien, c'est du 24 au 26 septembre prochain. Et le spectacle, lui, s'appelle Nu masculin debout. Il est signé de Bernard Souvira et mis en scène par Clément Pascaud. Alors, pour traiter du désir artistique et amoureux, le metteur en scène nantais Clément Pascaud propose une sorte de déclinaison scénique du texte contemporain Nu masculin debout, signé de Bernard Souvira et porté pour la première fois à la scène. Le théâtre devient finalement métaphore d'une tentative de trouver une sorte de paradis perdu. Alors l'histoire, eh bien, ça se passe dans un hangar. Un acteur retrouve son premier metteur en scène, celui qui l'a découvert. Mais pas que, parce que des années après, ils évoquent leurs souvenirs et c'est qu'il leur reste de leur amour, de cette relation si si particulière qu'ils avaient créée à l'époque. Le couple reformé expie ses douleurs, les incompréhensions et les manques qui l'ont composé. Il y a 4 personnages au total, un metteur en scène, l'acteur d'aujourd'hui, l'acteur alors plus jeune pour une présence quasi fantomatique ou une sorte de troisième œil, et puis une figure féminine tragique irradiante. La précision magnétique de la mise en scène de Clément Pascal donne toute sa puissance à l'écriture ciselée et évocatrice, dénouant ainsi les complexités des rapports humains et façonnant les figures tragiques comme les reflets de nos désirs tourmentés. Une partition sensible et sensuelle, j'ai bien dit sensuelle et sensible, autour de la confrontation entre la mémoire, le désir et l'état présent de la relation. Vous pourrez assister à Nu masculin debout les 24 et les 25 septembre à 20h au Quai et le 26, attention, horaire différent, à 18h. Spectacle ouvert à partir de 16 ans. Et vous deviez pourquoi. Et que, bonne nouvelle, les personnes adhérentes de Quasar peuvent s'inscrire et bénéficier auprès de Quasar d'un tarif réduit. Qu'on se le dise, spectacle au Quai. Vous n'oublierez pas, côté culture, le vernissage de l'exposition dont on a parlé tout à l'heure avec François à l'entre-deux 90 rue Lyonnaise dans la Doutre près de la place Bichon à Angers. C'est le samedi 12 à 19h. L'exposition s'appelle Nu et Paradoxe. Elle durera jusqu'au 1er novembre. Et puis le samedi 19 septembre, l'entre-deux toujours qui fêtera ses 9 ans. On lui a même pas fêté en avance, dites donc, tout à l'heure. On a loupé ça. Et puis on reparle de l'agenda de Quasar cette fois-ci. Alors, à rebours pour changer, samedi 26 septembre, la permanence de 17h à 19h. Et où ça, les filles? Vous me donnez l'adresse?
25 rue de Jérusalem.
Pardon?
25.
Non? Allez, qui dit mieux? C'est pas 25, c'est pas 35.
C'est 15.
C'est 15.
Elle a gagné. J'y étais presque.
Le samedi 19 septembre, grand rangement à Quasar entre 17h et 19h. On a besoin de bras et puis ça se passera dans la bonne humeur. La permanence toujours de 17h à 19h. Vendredi 18, la conviviale avec un lieu qui vous sera précisé ultérieurement. Et ça sera certainement une surprise. Et puis le dimanche 13, c'est-à-dire dimanche prochain, vous venez avec votre pique-nique à 12h, parc François Mitterrand. On se met dans l'herbe par petits groupes et on profite toutes et tous du beau temps qui est annoncé pour être ensemble et fêter cette rentrée. Et puis enfin, dès samedi 12, il y a beaucoup de choses hein, samedi 12, alors deux choses importantes. D'abord pour les personnes transgenres, la Transat, de 15h à 17h, vous savez, c'est le fameux groupe de parole trans, pour les personnes trans, à genre, non-binaire, qui est proposé par la Team Trans, et c'est sur inscription, hein, j'insiste, c'est très important, sur team, team-trans@quasar.fr. Un jour, il faudra qu'on fasse une émission quand même pour qu'on dit Quasar et pas Quasar. Bref, et vous n'oublierez pas la permanence de 17h à 19h. Vous y serez, les filles? J'espère quand même.
Bah, on verra, je ne sais pas encore.
Ouais, ouais,
je vais faire mon possible pour y être.
On compte sur vous. Merci beaucoup, Michel, d'avoir essuyé les plates de cette première de la saison 2020-2021.
Ça va, on n'est pas trop poussiéreux.
Non, ça va. Non, on est bien conservé, hein, on peut le remarquer. Merci, Christelle, d'être venue. Très bonne semaine.
Oui, tout à fait, toi aussi.
Ça va pas trop vite, hein, d'accord? Sois prudente.
Toujours.
D'accord.
Et puis tout le monde.
Voilà, on salue François, Bernard, Archie qui ont été avec nous. Et on vous souhaite une très, très, très bonne soirée sur Radio G. Et ça continue avec du blues, dites donc. On se donne rendez-vous, nous, dans 15 jours, la semaine prochaine.
Le 25 septembre.
Voilà, et c'est Tonix Live qui nous remplacera la semaine prochaine. On vous embrasse bien, bien fort. Et dites donc, regardez votre montre sur Radio G. Il est exactement 21h. Oh.